tour des infos, c'est Anaïs Feugard.
C'est le nouvel homme fort de l'Iran et pourtant il n'est toujours pas apparu en public. Mojtaba Khamenei est blessé mais sain et sauf selon le fils du président iranien. Le nouveau guide suprême aurait été blessé lors du raid qui a tué son père. Aucune information n'a filtré sur la gravité de ses blessures. Le régime en tout cas serre la vis. Si Donald Trump espérait un soulèvement populaire, les déclarations du chef de la police ce matin douchent tout espoir. À Téhéran, les précisions du correspondant de RFI, Siavosh Ghazi.
Le général Radan, qui intervenait à la télévision d'État, a lancé une mise en garde à toute personne qui tenterait de manifester pour soutenir les frappes américaines ou israéliennes ou contre le pouvoir, en affirmant qu'ils seront traités comme des ennemis. D'ailleurs, la télévision iranienne a montré des vidéos, des opérations de police en train d'arrêter des gens qui ont envoyé des vidéos, des sites de frappe, donc à la chaîne de télévision Iran International en persan ou encore à la BBC en persan qui émettent depuis l'étranger. Une autre déclaration qui a été faite par le procureur général du pays. Désormais, les biens des Iraniens qui manifestent à l'étranger en soutien aux frappes israéliennes ou américaines, leurs biens seront saisis ici. Un site a été créé, le site qui s'appelle Comité Vengeance, avec des photos des manifestants iraniens à l'étranger, en Europe, mais aussi au Canada, aux États-Unis, en Australie. Et donc, une manière d'identifier ces personnes dont les biens seront désormais saisis dans le pays, qu'ils ne pourront bien sûr pas retourner en Iran, puisque certains d'entre eux faisaient des allers-retours entre l'Iran et donc les pays où ils habitent.
Siavosh Ghazi depuis Téhéran pour France Inter. L'Iran qui refuse donc de se soumettre et poursuit son offensive vers les installations pétrolières et toujours la pression sur le détroit d'Ormuz. Un porte-conteneur, un cargo, un vraquier touché ce matin. Le détroit d'Ormuz, c'est par là que passe un cinquième du gaz naturel liquéfié et du pétrole. La Chine commence à s'inquiéter pour son approvisionnement. Elle qui importe plus d'un million de barils par jour de pétrole iranien. Pour contourner les sanctions américaines qui visent Téhéran, Pékin traite ce pétrole dans un réseau de petites raffineries qui semblent tourner désormais au ralenti. C'est ce que vous avez constaté, Sébastien Berriot, dans la province de Shandong.
Alors là, je me trouve devant l'une de ces raffineries de la société Shengxing, sanctionnée l'année dernière par les États-Unis pour avoir importé illégalement du pétrole iranien. Dans la province du Shandong, ici, ces petites usines sont nombreuses. Elles fonctionnent en dehors des circuits financiers internationaux, ce qui permet à la Chine d'y recevoir discrètement le pétrole venu d'Iran. Mais après plus de 10 jours de guerre au Moyen-Orient, le site est aujourd'hui très calme. Je vois seulement quelques camions citernes qui circulent. Ce transporteur m'explique la situation.
Hier, pendant la journée, l'approvisionnement en essence et en diesel se faisait encore normalement. Mais à minuit, l'entreprise a réduit son approvisionnement et aujourd'hui, nos véhicules n'ont toujours pas été chargés. C'est très rare. La raffinerie a cessé de vendre du carburant.
Le transporteur ajoute qu'avec la guerre, le prix des carburants à la sortie de la raffinerie a fortement progressé. C'est un coût très dur pour la Chine qui a fait le choix du pétrole iranien en raison justement de son coût très attractif. Mais le conflit au Moyen-Orient est venu perturber la stratégie chinoise.
Sébastien Berriot, notre correspondant permanent en Chine. Les ministres de l'énergie du G7 se disent ce matin prêts à prendre toutes les mesures nécessaires. Et avec la menace de cette nouvelle crise énergétique, la décarbonation qui nous rend moins dépendants des énergies fossiles semble encore plus indispensable. Elle pourrait aussi nous protéger contre la flambée des prix. La Cour des comptes publie ce matin un rapport sur ce que sont devenus les milliards d'aides publiques qui devaient aider les plus grands sites industriels français à se décarboner. L'enveloppe de 3,4 milliards d'euros n'a pas encore été totalement consommée. Les industriels ne se sont pas bousculés, y compris parmi les sites les plus émetteurs de CO2 en France, Claire Chaudière.
Sur les 56 sites identifiés comme ayant une très grosse empreinte carbone dans la métallurgie, la chimie, la cimenterie ou l'agroalimentaire, une vingtaine seulement ont perçu les aides de ces enveloppes post-Covid permettant de compléter des investissements dans l'électrification des processus de fabrication, par exemple. En réalité, ces entreprises ont assez peu candidaté, note la Cour des comptes, alors qu'elles constituent le levier pour décarboner. Parmi les points positifs, malgré tout, il y a eu moins de saupoudrage que lors de la période précédente, le ciblage s'améliore un peu et les entreprises qui se sont lancées sont aussi celles qui désormais innovent le plus, avec un nombre de brevets plus important qu'ailleurs. Des aides qui ont donc permis d'accélérer la transformation d'entreprises déjà engagées, mais pas de faire passer à l'action des industriels dans l'attente et qui pour certains ne franchiront peut-être le pas que lorsque les prix de l'énergie ne leur paraîtront plus soutenables.
Et puis un dernier mot de football, Ligue des Champions, le Bayern Munich déjà en quart de finale, ou presque, après sa correction 6-1 sur le terrain de l'Atalanta Bergame avant le match retour mercredi prochain à Munich. Il faudra un miracle aussi pour Tottenham, battu 5-2 sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Ce soir, le PSG reçoit Chelsea dans ses huitièmes de finale aller.
Merci Anaïs Feuga, personne ne bouge après la réclame, le magazine de la grande matinale.
France Inter, 16h-18h, Mathieu Noël.
Imaginez une émission de radio dans laquelle on parle drogue et sexe, sans complexe, sans tabou, sans limite. Ok, bon, ça nous arrive parfois aussi dans Zoom Zoom, mais non. Ce mercredi, Zoom sur la belle époque des libres antennes, quand on pouvait vraiment tout dire, et parfois surtout, n'importe quoi.
Zoom Zoom Zen, tous les jours de 16h à 18h sur France Inter.
J'emporterai le feu. L'ultime voyage au pays des autres de Leïla Slimani paraît en folio. Une grande fresque familiale. Des personnages inoubliables.
À la Bourse de Commerce, l'exposition Clair-Obscur vous invite à un voyage à travers une centaine d'œuvres modernes et contemporaines de la collection Pinault. De la peinture à la vidéo, le musée se transforme en un paysage sensible qui transporte le visiteur au cœur d'un dialogue entre visible et invisible, entre ombre et lumière. Clair-Obscur, une exposition Pinault Collection à découvrir à la Bourse de Commerce.
Vous écoutez France Inter, il est 9h09. Et c'est un plaisir de vous retrouver chaque matin pour cette heure de magazine faite de débats et de belles personnes. Charline Vanhoenacker nous rejoindra pour parler politique européenne et immigration. Chaussez vos pointes, Daphné Burki nous présentera Roxane Stojanov, danseuse étoile à l'Opéra de Paris. À 9h30, vous retrouverez le débat du jour. Il porte sur la progression fulgurante de l'école privée en France. Dans les grandes villes et notamment à Paris, de plus en plus d'élèves, petits et grands, y sont inscrits. Faut-il s'en inquiéter ? On en discute tout à l'heure, mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Aujourd'hui, l'humanité se divise en deux catégories. Les humains qui ont connu les années 80 et ceux qui n'étaient pas nés. Je vais donc m'adresser à la première catégorie. L'autre nous énerve un peu, donc elle va aller se recoucher. Vous, que les mots Minitel, Péritel et Interville font immédiatement sourire. Vous qui avez eu peur des micro-ondes. Vous qui n'avez pas toujours connu le rap. La nouvelle comédie dans laquelle revient François Damiens va vous ravir. Il y joue un flic foireux. Certes, dans ses caméras cachées, il a déjà joué des dizaines et des dizaines de flics complètement foireux. Mais là, c'est les années 80, vu par un gars qui ne les comprend pas. Il trouve que c'était mieux avant, un peu comme vous, si vous aimez Jean-Jacques Goldman et Michel Sardou.
Vous en étiez où de l'enquête sur le trafic d'héroïne avec Lansky ?
On en était qu'on va se tutoyer, parce que j'ai vraiment l'impression de passer pour un vieux, quoi.
Vous avez pas des procès-verbaux d'interrogatoire, des saisies, des photos ?
Ben non, nous, avec Lansky, on bosse à l'ancienne. On avait tout dans la tête.
Excusez-moi, chef, si c'est possible de pas fumer dans le bureau, je suis un peu asthmatique.
C'est quand même étrange, avec toute l'héroïne qui circule ici, il y a eu aucune arrestation, aucun suspect ?
Oh, oh, on baisse le chauffage, Guilou, d'accord ? Et Guylaine, pour info, ne me donne pas d'ordre, d'accord ? Tout au plus, on me transmet un souhait.
Ah oui, mais bien sûr, mais je veux juste savoir par où vous voulez qu'on commence. Parce que tuer un inspecteur, c'est quand même pas à la portée de n'importe qui.
Bon, écoutez bien ce qu'on va faire. On va laisser jeter un petit noir au troquet d'en face. Et c'est moi qui régale.
Bonjour François Damiens.
Bonjour Sonia.
Voilà, Police Flash 80, le film de Jean-Baptiste Sorel, sur vos écrans, avec Audrey Lamy, Thomas N. Gijol, Xavier Lacaille, sur un scénario de Thomas N. Gijol. Je me suis posé la question...
Ibrahim Loubel.
Voilà, Ibrahim. Votre personnage de flic foireux, je l'ai dit, s'appelle Yvon Castendutch, je le prononce bien ?
Oui, très bien. Ouais.
Très bien. Donc dans cette brigade, Audrey Lamy s'appelle Guylaine Roblot-Bernard.
Oui. Mmh.
Elle est accompagnée de Marfou de Lalaoui et de Roberto Torricelli. Vous qui adorez les déguisements, est-ce que le premier accessoire d'un personnage, c'est pas son nom ?
Ben oui, ça raconte déjà pas mal. Hein.
Eh, voilà. Ouais. C'est un peu le béaba de la comédie.
Oui, complètement. Et ici, justement, j'adore les déguisements, mais je crois que je préfère encore les costumes, en fait.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je trouve que Rachel Raoul a fait un travail magnifique sur ce film. C'est qu'elle n'est pas rentrée dans le cliché des vêtements qu'on portait dans les années 80, mais plutôt elle nous a habillés à la mode des années 80.
Mmh.
Enfin, à la mode, entre guillemets, pas à la mode fashion. Mmh. Mais, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Et donc, je trouvais ça très intéressant la façon dont on est tous accoutrés dans le film. C'est pas de la blague, en fait. On n'a pas tiré sur tous les curseurs, quoi.
Voilà. La barbe, en revanche, vous avez essayé de négocier pour la garder.
Ouais.
On vous l'a pas laissé.
Non.
Il a fallu la raser.
Ouais, j'ai négocié, mais j'ai très vite compris que j'allais m'appeler.
Et l'accent belge, on en parle de l'accent belge. Qu'est-ce que votre personnage de flic franchouillard fait avec un accent belge à couper au couteau?
Mais en fait, c'est passé à la lecture quand on a fait la lecture du scénario. En fait, j'étais parti avec un accent comme maintenant que je pense être neutre, mais qui n'est pas neutre, je le sais bien. Je vous rassure aussi. Pas quoi, être fou.
Là, vous pensez avoir gommé l'accent belge?
Oui, j'essaye du moins.
D'accord.
Non, mais...
Et vous pouvez le forcer beaucoup plus.
Oh oui, nettement, ouais.
C'est ça.
Je suis à 10%, là.
D'accord.
Et en fait, pendant la lecture, j'ai commencé à reprendre mon accent belge, et on s'est rendu compte, en fait, il y a quand même pas mal d'impro aussi dans le film. Il y a Jean-Baptiste Aurel, malgré que le scénario est très bien écrit, m'a laissé quand même certaines marges de manœuvre.
Plus les scénarios sont bien écrits,
voilà,
plus on peut s'amuser avec.
S'en échapper, non, exactement.
Ouais.
Oui.
Et alors, qu'est-ce qui vous a pris, pour toujours parler d'accent, de recevoir un René, les René, ce sont les Césars belges, avec un énorme accent américain?
Oui, c'était pour faire un petit clin d'œil à la cérémonie de César avec Benjamin Lavent, qui a fait un travail magnifique. Mais là, je me répète, mais comme je viens d'arriver à Paris. Voilà, exactement.
Ouais.
Et puis, voilà, faire un petit honneur aussi à Jim Carrey. Voilà, et puis c'est ça, on est passé des Magritte au René, et c'est un ami qui produit cette émission, et donc je me suis dit c'était sympa de...
C'est vrai que les René, c'était les Magritte, que vous avez changé de nom.
Très belge, hein, tout ça.
Allez, ouais. Souvenir.
Qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire, si noir sur blanc, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi.
Ah, j'ai une petite anecdote sur Jean-Jacques Goldman.
Allez-y.
Parce qu'il est dans le film. Alors après ça, je ne sais pas si je peux le dire ou pas le dire.
Mais si.
Le disque dans le film dure 4 minutes. Et je vais voir le producteur. Je dis, mais comment t'as fait pour avoir les droits d'une chanson de Jean-Jacques Goldman? Il me dit, bah, écoute, on l'a appelé. Il est très sympa, il a décroché. Et on lui a demandé si il acceptait de nous prêter une chanson. Il a dit oui. Et combien ça coûterait? Il a dit, vous donnez ce que vous voulez. Vous le donnez à telle association. Mais surtout, je veux pas qu'on sache que ce soit moi qui l'ai offert, quoi.
Bah voilà.
Vous imaginez?
Maintenant, c'est fait.
Ouais. Bah non, mais c'est quand même...
tout le monde le
oui,
sait.
Mais j'ai pas dit l'association.
Non.
J'ai pas dit le titre de la chanson non plus.
Ouais, mais c'est très classe. C'est très, très classe.
C'est ça.
C'est très, très classe.
Ouais.
Alors, évidemment, les années 80, François Damiens, ce sont vos années de collège et de lycée, puisque vous êtes né en 73. Donc, vraiment, c'est les années collège et lycée. Pour vous, c'était où?
Ah, c'était au sud de Bruxelles. J'ai toujours habité dans la même région, en fait.
Vous habitez toujours là où vous étiez au collège?
J'habite à 100 mètres d'où je suis né, en fait.
C'est drôle,
ça. J'ai pété très loin.
Vous n'avez pas bougé?
Non, pas du tout. Je connais tout le monde dans le coin. Ah ouais, là, c'est...
Exactement comme un flic de quartier, quoi.
Exactement.
Exactement.
Ouais. Je connais toutes les petites histoires.
Vous pourriez nous le décrire, le quartier?
Ben oui, c'est un petit
à
village.
L'époque.
C'est la campagne la plus proche, juste après Bruxelles. Il y a la forêt de Soignes qui pourrait correspondre à Fontainebleau, par exemple. Enfin, c'est quand il n'y a pas d'embouteillage, c'est 20 minutes, et quand il y a du monde, c'est une heure.
Et alors, au collège et au lycée, vous écoutiez quoi? Vous écoutiez Goldman?
Vous aviez
un Walkman? Oui.
Je me rappelle de son concert, j'avais 14 ans. Oui, mais j'écoutais Jean-Jacques Goldman, j'écoutais Balavoine, j'écoutais Souchon, j'écoutais...
Et dans les booms? Vous alliez dans les booms?
Oui. Ouais, j'adorais.
J'adorais les
booms. Parzotti aussi.
Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais.
Et le Connemara de Michel Sardou, vous l'écoutiez quand vous étiez au collège?
Oui, un peu comme tout le monde.
Un peu comme tout le monde, parce que là, quand même, Jean-Baptiste Aurel vous le fait chanter à tue-tête avec Audrey Lamy, ça donne une séquence absolument hilarante, voilà, que vous jouez avec beaucoup de sérieux.
Elle était très compliquée. Parce qu'en fait, quand Michel se met à accélérer, ouais. On était largués. On connaissait les deux premiers couplets. Et puis on pensait qu'il allait couper avant, et puis il nous laissait, et là on n'y arrivait plus, on avait des antisèches partout. Et...
Alors, Yvon Castendutch, c'est l'histoire d'un flic un peu dépassé par son époque. Mmh. Un flic qui pensait que c'était mieux avant, un flic qui commande du Côte du Rhône en discothèque.
Ouais.
Ça s'en vend pas, mais si Thomas Njijol a inventé ça. ça change trop vite pour lui et pour vous aujourd'hui. Il y a quelque chose, Yvon Castendutch, en vous?
Mais oui, c'est vrai que ça avance très 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 vite pour moi. Mais je suis encore un peu, honnêtement, resté dans les années 80, quoi. Ouais, j'ai pas de portable, je vais passer pour un vieux, mais j'ai jamais rien acheté sur Internet.
C'est vrai?
Imaginez, ouais. Ouais, si Steve Bezos est
milliardaire, Jeff,
c'est pas grave
à moi. En l'occurrence,
ouais,
c'est pas grave, non, comme vous
Steve
êtes
pas sauvé. Qui est décédé entre-temps. Ouais, ça s'appelle la matinale aussi. Hein.
Ouais, c'est tôt le matin, mais c'est surtout dire le peu d'intérêt que vous avez pour ces gens-là. Et pour
sur les nouvelles technologies.
C'est ça.
Ouais. C'est... Et les jeux
C'est curieux parce que je me suis posé la question d'ailleurs. Vous qui avez passé votre vie à observer le genre humain, partout où vous pouvez, vous avez regardé, vous vous êtes imprégné, vous trouvez pas que les réseaux sociaux, que TikTok, Instagram, Facebook, pour vous c'est une matière extraordinaire, ça permet de voir sans être vu. Il y a des gens qui se filment en train de faire des barbecues, de déballer les courses, de laver leur chien, mais pour vous c'est génial, non ?
Oui, mais je préfère le voir en vrai en fait.
C'est vrai ?
Mais cette émission, on aurait pu la faire en visio aussi, qu'est-ce que ça aurait changé ?
Nous deux, en interview.
Donc c'est bien la preuve.
Ça aurait tout changé.
Oui, mais voilà, c'est bien la preuve qu'il faut avoir la personne devant soi. Et pas un écran entre les deux. Ah. Voilà. Vous avez vu quelle leçon vous prenez, là ?
Total. Next. Ce personnage d'Yvon Castendutch, il est drôle, il est ridicule, il est agaçant, il est aussi touchant, même s'il se torche avec le code de déontologie, comme il dit. Mais c'est le fil rouge de tous vos personnages en général, François Damiens. Comment on force le trait sans être méprisant ? Comment on force le trait sans être méchant ?
Moi, j'essaie toujours de mettre de l'humanité, en fait, de rendre les personnages les plus...
De rendre aux personnages ce qu'ils vous ont donné.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire, moi quand j'incarne ce personnage, il me fait penser à mon oncle, il me fait penser à mon père, il me fait penser à mon grand-père, il me fait penser à mon garagiste, il me fait penser à tout...
Qu'est-ce qu'il a, votre oncle, d'Yvon Castendutch?
C'était quelqu'un qui était au-dessus des lois, ou à côté, du moins. Je pense qu'il... Les lois pour lui, c'était indicatif, quoi. Ah oui, il était très très fort. Il un peu comme Michel Sardou, il roulait vite en voiture à l'époque. Et puis quand il se faisait avoir sous la route par un radar, il appelait le commissariat en direct avec son téléphone portable. Déjà, il était dans les premiers à les avoir en Belgique. Il appelait pour faire sauter la contravention, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il était entre guillemets sans foi ni loi. Voilà, au-dessus de tout, il s'en foutait du qu'en dira-t-on, il expliquait quoi à tout le monde, même quand il savait pas, il expliquait quand même.
Et ça a commencé avec votre famille, cette envie de regarder, d'observer, de s'imprégner, de noter les mimiques, ça a commencé.
Ben oui, quand j'étais petit, j'ai jamais joué à rien. Je lisais pas de BD, je regardais pas de dessins animés, je jouais pas aux jeux de société. J'avais des frères et sœurs qui jouaient tout le temps, mais moi j'allais plutôt les ennuyer, enfin les perturber quand ils jouaient. Et puis
vous jouiez pas avec eux.
Ah, jamais,
vous faisiez pas des quêtes avec
eux. Jamais joué à rien, mais par contre
vous avez jamais joué à rien.
Non, jamais joué.
Vous jouez toute votre vie. Le travail d'un comédien, c'est de jouer. Mmh. Et quand vous étiez petit, vous ne jouiez à rien.
Non, mais toujours incroyable. Pas. Hein. Je déteste jouer à quoi que ce soit. J'aime pas les blagues. J'aime bien observer.
J'aime pas les
gens.
Blagues. François Damiens, 9h21 sur France Inter, j'aime pas les blagues.
Non, ça me fait pas rire les blagues.
Non, d'accord. Vous venez de croiser François Larcher, Gérard Larcher, président du Sénat, et vous venez de m'expliquer droit dans les yeux qu'il est le parrain de votre fils.
Oui.
Et vous aimez pas les blagues.
Non, j'aime pas les blagues.
Le pire, c'est que Benjamin Duhamel y a cru.
Ouais,
il a dit ah bon.
C'est
vous, en
bien,
temps,
ouais.
Vous en faites tout le temps des blagues. Vous en faites tout le temps.
Non, mais c'est des blagues comme ça, mais c'est pas. J'aime pas les. Tiens, t'as pas. C'est quoi la dernière? Je fais ah non, j'aime pas trop ça.
Vous aimez pas les blagues belges,
non.
Ok.
Non, les blagues tout court.
D'accord, donc vous n'avez pas joué avec votre frère, votre sœur, vous n'avez pas joué quand vous étiez enfant. Et donc pendant que vous ne jouiez pas et que le reste de l'humanité enfantine perdait son enfance à jouer, vous regardiez
les adultes, ouais.
Vous regardiez les adultes.
Oui, mon père, il m'appelait Olga, parce que je ne sais pas pourquoi Olga, mais j'écoutais toujours aux portes. Et puis le soir, quand
Que vous étiez un espion russe.
Oui, mais voilà, exactement.
C'était la guerre froide, hein, à l'époque.
C'est ça.
Bah si, c'est vrai.
Oui, c'est pas faux. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'ai essayé de me faire discret et rester le plus longtemps possible à table quand il y avait un dîner à la maison.
Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette famille d'Amiens de si hypnotisant, de si riche?
Bah, je sais pas.
D'abord, c'était quel milieu social, les Damiens?
C'était, je dirais. Je voudrais voir ce que mes frères et sœurs diraient. Je sais pas, la petite bourgeoisie ou la grande bourgeoisie. Enfin, du côté de mon père, c'était plutôt la bourgeoisie. Ouais. On était dans le high life. Vous voyez ce que je veux dire? Le snotbook, comme on dit en Belgique.
D'accord.
Ouais, c'est ça.
Et du côté de votre mère, c'était un milieu plus modeste.
Oui, c'était un milieu plus modeste.
Ah, et c'est pas la rencontre des deux
qui était très intéressante.
Eh ben voilà, c'est ça. C'est le décalage social.
Les réunions de famille entre les deux familles, c'était extraordinaire, quoi. Il y avait matière à regarder, quoi.
Eh ben voilà, c'est ça, parce que ça, c'est déjà un scénario de comédie.
Exactement.
Les bourgeois et les prolos qui se rencontrent. Donc déjà, vous, à 8 ans, c'était ça que vous...
Ah oui. Voilà. Mes deux grands-mères, quand on les mettait ensemble, c'était une pièce de théâtre, quoi.
Et alors, regarder, c'est se faire oublier? Parce que...
Mais il faut se faire oublier pour regarder, effectivement, je pense.
Mais vous avez du mal à vous faire oublier, non? Enfin, comment dire?
C'est vrai.
Alors, d'abord, physiquement, vous êtes assez imposant, vous êtes grand,
je suis bien
vous avez
bâti,
des épaules,
effectivement.
Vous êtes bien bâti,
j'ai
voilà.
J'ai un petit physique qui ne me dessert pas, on dit.
Non, mais voilà, c'est...
Non, mais c'est vrai, et en plus, je ne suis pas très discret quand j'observe. J'étais à la montagne il y a un an avec un de mes fils, et il m'a filmé en train d'observer. Et en fait, je me suis rendu compte, j'étais un vrai scanner, quoi. J'ai regardé les chaussures.
Est-ce que c'est encore maintenant le cas?
Ah ben oui, mais c'est ce que je préfère faire, ouais. C'est regarder les gens qui regardent. Si, ma sœur me disait récemment que quand j'étais petit, les rares fois où j'acceptais d'aller au cinéma, je regardais les gens qui regardaient le film, quoi.
Parce que vous n'aimiez pas le cinéma non plus?
Non, mais même quand je vais voir un match de foot, je regarde les gens qui regardent le match de foot, quoi.
Et aujourd'hui, vous aimez le cinéma?
J'aime le faire, mais me le regarder...
Bof ?
Ah oui, carrément bof.
Vous n'allez pas au cinéma ?
Je regarde les baffes, je regarde l'écran, je regarde par où sort le
donc
son.
Donc 9h24 sur France Inter, François Damiens s'emmerde au cinéma ? Non seulement il n'aime pas les blagues, mais il s'emmerde au cinéma. Vous venez de casser.
Mais non, mais j'en fais pas une marque de fabrique. Hein, et je ne suis pas fier de le dire. Hein. Mais j'ai toujours peur des interviews qu'on me demande des références à des films parce que j'ai pas vu Le Parrain, j'ai pas vu La Grande Vadrouille, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec les gens, c'est de les regarder, c'est...
Vous avez une vague idée du dernier film que vous avez vu?
Oui, c'était L'Attachement.
Ah.
J'ai adoré.
Bah, tant mieux.
Ah oui, comme quoi, de temps en temps, quand je vois un très bon film, ça me donne envie d'y retourner.
Ouais.
Mais quand j'en vois
un que
j'ai pas aimé...
Nous, en France, on lui a donné un César.
Oui.
L'Attachement.
Et elle le mérite, hein. Karine Tardieu, quelle réalisatrice, quel talent immense. Je l'adore, ouais.
C'est un appel?
Non, elle m'avait déjà permis de travailler avec elle. Et c'est du vrai travail, je peux vous dire.
Alors, le 18 mars, si vous voulez aller voir Police Flash 80, allez au cinéma, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous voir au cinéma pendant que François Damiens ne va pas au cinéma.
Je l'ai vu deux fois en l'occurrence, celui-ci.
Voilà.
Une fois assis, une fois debout.
Pourquoi debout?
Parce que je ne voulais pas qu'on voit que j'étais dans la salle, donc je me suis caché dans la rampe des escaliers.
Franchement, vous ne voulez pas revenir demain et après-demain sur France Inter et après-après-demain?
Tant que vous voulez. Ouais.
Super, vous allez revenir.
Je vais continuer à me faire
le film est signé Jean-Baptiste Sorel, à la réalisation Thomas N'Gijol, le scénario Audrey Lamy, qui est absolument fantastique, dans le rôle de Guylaine Roblot-Bernard.
Elle est extraordinaire.
Elle est extraordinaire, elle est hyper forte.
Mais incroyable, elle a un sens de la comédie, mais je rêvais de travailler avec elle. Et déjà, c'est pas travailler, parce qu'avec elle, elle est, je sais pas dire autrement, mais elle est aussi marrante, en plus, dans la vie que dans le film. Et elle a un sens du jeu, mais énorme.
Fin de l'interview.
Et d'humeur constante. Ça, c'est extraordinaire.
Merci, François Damiens. Merci d'être venu sur France Inter ce matin.
Gentil. Merci, Sonia.
This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I'm giving you up, I'm forgiving it all.
Love to Your New Lover 2016, Adele, sublime chanson écrite par la chanteuse britannique pour son ex. Vous êtes dans la grande matinale et nous sommes ensemble jusqu'à 10h, 9h45. Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter. Alors pendant qu'on rapatrie les expats de Dubaï, et bon retour à eux à l'abri, les eurodéputés durcissent les règles d'expulsion des migrants. Donc si vous volez sur Fly Emirates, oubliez pas de faire coucou au charter.
Voilà, coucou. Puis Daphné Burki. Bonjour Daphné.
Un grand coucou. Tout à l'heure, à 9h50, je reçois la toute dernière et grande danseuse étoile de l'opéra.
Elle vient
qui va venir se
nommée.
Présenter. Roxane Stojanov qui sera avec nous.
Il est 9h30 sur France Inter et c'est l'heure du débat du jour.
La capuche, c'est bon, on ne court pas dans les couloirs.
Pourquoi madame juge marche vite?
Déjà qu'on est dans une ville de Caïra, dans un collège de Caïra, et vous, votre idée, c'est de regrouper tous ces fous ensemble. C'est ça votre projet pour nous?
Viens, on va parler un petit peu.
L'école privée, 2 millions d'élèves sont scolarisés dans les plus de 7600 établissements privés sous contrat en France, soit 17% de nos élèves qui sont 12 millions au total. À Paris, la part du privé pourrait devenir majoritaire à l'horizon 2035, c'est dans pas si longtemps, hein, 2035, c'est une petite dizaine d'années. Alors comment expliquer le succès du privé et surtout la question ce matin, faut-il oui ou non s'en inquiéter ?
France Inter. La grande matinale, Sonia De Villers.
Et j'ai le plaisir d'en discuter, d'en débattre, même avec Olivier Babeau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux, vous êtes président fondateur de l'Institut Sapiens et vous êtes parent d'élèves.
Plein, j'en ai 4.
Vous avez 4 enfants?
Oui.
Vous
avez la dernière a 15 mois, elle n'est pas encore élève, mais sinon...
D'accord. Les trois autres sont encore scolarisés. Face à vous, Julien Grenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes professeur associé à l'École d'économie de Paris, directeur adjoint de l'Institut des politiques publiques. Alors Julien Grenet, on va démarrer avec vous à l'Institut des politiques publiques. Vous avez publié récemment une note qui a fait beaucoup réagir. Baisse démographique et dynamique publique-privée vers une ségrégation scolaire accrue dans les grandes villes. On va bien sûr revenir sur ce terme de ségrégation. Mais d'abord, une dynamique en faveur de l'école privée dans les grandes villes, comment s'explique-t-elle ?
Alors, ce qu'on observe, c'est que depuis 2010, le nombre de naissances a chuté de façon assez dramatique. À l'échelle nationale, c'est 20% de naissances en moins aujourd'hui par rapport à 2010. Cette baisse, elle est particulièrement marquée à Paris. À Paris, c'est 32% de baisse des naissances. Évidemment, ce n'est pas sans conséquence sur le système éducatif, puisque ces naissances en moins, ça fait des élèves en moins quelques années plus tard.
Oui.
Et donc la baisse démographique, la baisse des effectifs, elle a commencé en CP à partir de 2016. Et puis, elle touche maintenant le collège depuis 2020, et puis ça touchera le lycée. Alors, cette baisse, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'elle est asymétrique. Elle est intégralement absorbée, quasi intégralement absorbée, par les écoles publiques, les collèges publics, tandis que les établissements privés, eux, parviennent à maintenir leurs effectifs.
Pourquoi ?
Eh bien, les établissements privés, en fait, ils sont en excès de demande. Il y a toujours plus de demandes que de places.
Il y a des listes d'attente.
Il y a des listes d'attente et l'enseignement privé a un réservoir assez large, y compris, par exemple, pour l'enseignement privé parisien au collège, il y a des élèves, 20% à peu près, qui viennent de banlieue. Et donc, l'enseignement privé vraiment parvient à maintenir ses effectifs. Donc, en fait, ce que ça fait en pratique, s'il y a moins d'élèves dans le public, autant d'élèves dans le privé, ça déforme la structure de l'offre éducative à Paris. Et la part du privé augmente.
Eh bien oui, on va même le dire, hein, parce que c'est quand même très spectaculaire. 17% d'élèves scolarisés dans le privé en France, je l'ai dit. À Paris, ça atteint 40% au collège. C'est considérable. Hein. La part des élèves de CP dans le privé est passée de 23% en 2016 à 27,5% en 2024. Et ça pourrait dépasser un tiers des élèves en 2030. En sixième, la proportion était de 35,4% en 2020. Et elle atteignait 38,7% en 2024. Elle pourrait représenter la moitié des élèves en 2035. Et je l'ai dit, 2035, ça va très vite. C'est dans moins de 10 ans. Olivier Babeau, pour vous, cette dynamique en faveur du privé, vous l'expliquez surtout
par la défaillance de l'école publique.
Oui, elle est de façon évidente un symptôme. En réalité, au niveau national, théoriquement, le privé ou l'école libre, si on veut l'appeler comme ça, est capé et plafonné à 20%. Donc on limite les ouvertures. Théoriquement, on pourrait ouvrir énormément d'écoles libres en plus, parce que la demande est énorme, et on ne le fait pas pour des raisons administratives, justement, de plafonnement. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot d'école libre.
D'école libre, oui, enfin, on peut l'appeler comme un mot privé.
Ça nous rappelle les manifs de quand j'étais enfant.
Il y a un truc un peu bizarre, toujours, en fait, public-privé, parce que c'est l'impôt privé qui est utilisé pour payer l'éducation.
On en reparlera.
Mais en tout cas, il est très clair aujourd'hui que si l'école publique va mal, c'est pas parce que le privé va bien. Le privé va bien parce que l'école publique va très mal. Pourquoi l'école publique va très mal? Parce qu'ils ont renoncé à la transmission, au savoir, à l'exigence, à l'autorité. Parce qu'il y a cette vulgate bourdieusienne qui a imposé l'idée que la culture étant un piège bourgeois, n'est-ce pas, il était nécessaire d'arrêter de la transmettre. Eh bien, les parents qui ont pu ont fait sauf qui peut et sont allés dans des canaux de sauvetage, essayer de fuir le paquebot.
Vous pensez vraiment qu'à l'école, dans l'école publique, aujourd'hui, on a renoncé à transmettre la culture?
Attendez,
franchement,
vous avez vu, regardez tous les chiffres de l'effondrement absolu de l'éducation. N'importe quelle organisation qui connaîtrait un échec aussi flagrant dans les 40 dernières années se serait totalement réinventée. Et l'éducation nationale est incapable de se réinventer. Donc, les gens fuient, c'est les canaux de sauvetage, l'école privée.
Alors, on va y revenir. Vous parlez, Julien Grenet, dans votre étude, de ségrégation, de dynamique ségrégatif, c'est un mot extrêmement fort. Pourquoi l'avoir choisi ?
Simplement parce que ça saute aux yeux quand on regarde les statistiques. Pour vous donner juste une idée de l'écart du fossé social qui sépare le public et le privé à Paris, mais pas que à Paris, aussi dans les grandes villes, dans les collèges privés aujourd'hui parisiens, la part d'élèves de catégorie très favorisée, c'est 80%. Les collèges privés parisiens accueillent 3% d'élèves de milieux défavorisés, enfants d'ouvriers ou de personnes sans activité professionnelle. Par comparaison, dans le public, c'est un quart des élèves qui sont d'origine défavorisée. Et ce qu'on oublie souvent de rappeler, c'est que l'enseignement privé, il est financé aux trois quarts par l'État et les collectivités territoriales.
Ah, alors voilà, justement, on y vient.
Et avec une condition, théoriquement, qui est dans la loi Debré, dans l'article 1, qui est que l'enseignement privé sous contrat doit accueillir tous les élèves, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance. Mais aucun mécanisme de régulation n'a jamais été mis en place s'assurer qu'alors que tous ces parents payent aussi pour le privé, par leurs impôts, la CSG, ils y ont également accès.
Mais pour reprendre les choses dans l'ordre, vous trouvez ça anormal que l'État finance le privé sous contrat ?
Je ne trouve pas anormal du tout que l'État paye ce service public, mais il faudrait que ce soit comme dans les autres pays, c'est-à-dire avec des règles et des contreparties qui n'existent pas. La France est vraiment une bizarrerie internationale, ouais. C'est-à-dire une subvention massive au privé sans contrôle du recrutement. Et en fait, on voit bien d'un point de vue juridique.
Alors que dans les pays anglo-saxons, par exemple, l'Angleterre, les États-Unis, si j'ai bien lu votre étude, en fait, en réalité, le privé ne reçoit pas de subventions, donc fait absolument ce qu'il veut. En revanche, en Belgique, le privé reçoit des subventions, mais est contrôlé, il est régulé.
Exactement, il y a deux modèles.
Ouais.
Et le modèle américain ou anglais, ça ne coûte pas 1000, 2000 euros par an. Ça coûte 15, 30,
1000
20,
euros,
30 000
mais
dollars.
Mais en échange de ça, liberté totale.
Voilà, mais ça concerne très peu de monde, du coup.
Olivier Babeau, vous insistez beaucoup, justement, sur le fait que les écoles privées sous contrat sont en partie subventionnées par nos impôts, et donc vous vous dites que c'est une manière de rendre l'argent contribuable.
Oui, l'argent public qui finance l'école, c'est l'argent privé qu'on prend aux parents pour financer le service de l'école. En réalité, on devrait créer, comme c'est le cas en Suède ou en Australie, un système de chèque éducation où on vous donne l'équivalent du coût d'un élève, c'est-à-dire qu'on ne va pas financer les écoles, on finance les élèves. Chaque élève a droit à l'éducation et donc il va pouvoir aller dans des établissements qui sont mis en concurrence de façon beaucoup plus dynamique. Ce terme de subvention, je le réprouve totalement, et le parent aussi, mais il faut savoir aussi que si demain, par un coup de baguette magique, on interdit, mettons, l'école sous contrat. Alors d'abord, tous les gens très riches iront dans le hors contrat, et donc ça, pour le coup, la ségrégation sociale, vous l'aurez, mais alors 100% en pleine barre. Et la deuxième chose, c'est que ça va exploser le coût de l'éducation, parce que pour la petite histoire, le privé, c'est 30% de coût de moins par élève. Et oui, parce que les parents, ils payent payent deux fois, n'est-ce pas? Ils payent à la fois à travers leurs impôts, et puis ils payent le supplément, puisque l'école privée, elle est payante. Il faut aussi dire qu'au niveau national, elle est beaucoup moins sélective et beaucoup plus mêlée que dans les grandes villes. Effectivement, il ne faut pas avoir toujours, on pense aux grands lycées parisiens plutôt sélectifs, mais évidemment, au niveau national, le privé...
Aux grands lycées publics ou privés?
Privés, pardon. Les grands lycées privés qui, en effet, sont sélectifs, sont d'ailleurs de plus en plus courus.
Type Stanislas, qui a, par exemple, l'établissement Stanislas, non, mais qui a beaucoup occupé l'actualité, mais qui a un excellent lycée, oui.
Il y en a plein d'autres dans le 16e d'excellents lycées, effectivement, qui sont d'un point de vue social très ségrégatif, mais moi, je suis assez lucide, on n'empêchera pas les parents de vouloir que leurs enfants soient élevés avec les gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes exigences, la même éducation, le même souci de transmission. On ne les empêchera pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est la logique du mur de Berlin où, quand ça ne marche pas, on met un mur, on empêche les gens de sortir, ou alors on crée une sorte de système communistoïde, ou alors est-ce qu'on essaye de se réveiller et de créer les conditions pour que cette exigence, cette mixité, elle soit présente partout, bon, à
Julien
travers Grenet, la dynamique du niveau.
Est-ce que vous voulez créer un système communiste? Parce que...
Non, c'est, voilà, c'est simplement un système...
J'ai dit communistoïde.
Communistoïde,
non,
voilà.
C'est simplement le système qui est appliqué partout ailleurs, c'est-à-dire que qui dit argent public, 10 milliards par an, je le rappelle...
10 milliards par an.
Dit régulation... Il y a peu de secteurs de l'économie où l'État met 10 milliards sans du tout regarder comment cet argent est dépensé, et surtout dans l'éducation, qui est recruté.
Et on a, par exemple, à Paris, où, parce que c'est vrai que l'établissement Stanislas a beaucoup occupé l'actualité, un regard déformé sur ces établissements.
En fait, je ne suis pas d'accord du tout sur le fait que le privé n'est ségrégatif que dans les grandes villes. À l'échelle nationale, il y a 2 à 3 fois plus d'élèves favorisés dans le privé que dans le public. Donc ce n'est pas du tout un phénomène strictement... Alors évidemment, c'est exacerbé dans les grandes villes, mais que ça existe partout. La régulation dont on parle dans la note, c'est simplement de reconnaître que si c'est de l'argent public, eh bien, il doit y avoir un droit, une équité d'accès. Pour s'assurer de cela, nous, ce qu'on suggère, c'est que soit mise en place simplement une plateforme d'inscription dans le privé qui permettra simplement de contrôler que les élèves admis sont représentatifs au moins des élèves qui sont candidats. On n'a aucun moyen aujourd'hui de savoir si la raison pour laquelle on a...
Sauf que vous avez face à vous un Olivier Babeau, si je vous ai bien entendu, Olivier Babeau, vous ne voulez pas de mixité sociale à l'école.
Non,
vous voulez que les parents puissent mettre leurs enfants dans... vous venez vous-même de vanter les vertus de l'entre-soi social, de scolariser nos enfants avec des enfants qui leur ressemblent, au milieu de familles qui nous ressemblent. C'est ce que vous prenez comme liberté de choix.
Mais ça peut être quand même une forme de mixité sociale, mais...
Pourquoi?
C'est
en
quelqu'un
c'est
avec qui vous allez partager. Il y a des gens, encore une fois, très modestes dans les écoles privées. Alors, s'il y a,
C'est une question de valeur et d'extraction sociale.
Absolument,
d'accord,
c'est une question de valeur. On peut avoir d'ailleurs, regardez, qui réussit le mieux à l'école? C'est les enfants de profs. Les enfants de profs, c'est pas une question d'argent, on est bien placé pour le savoir. Donc, c'est une question de valeur, de sens de l'effort, par exemple. Si on remet ça dans le public, je suis persuadé qu'on va régler ce problème d'attractivité et qu'on aura, comme autrefois, le public qui va être la chose qu'on va préférer. Il faut se souvenir que personne paye 3 000, 4 000, 5 000 euros de plus par an, si c'est pas beaucoup plus, par plaisir. Ce qui peut expliquer d'ailleurs aussi le décalage du privé dans les gens plus modestes.
Il y a beaucoup d'écoles qui valent moins cher que 5 000 euros par an.
La moyenne, c'est 1 000 euros.
Voilà, c'est ça. Hein.
Oui, c'est 2 3 000. Oui. Enfin,
en France, c'est 1 000.
Si on met la cantine en plus, bon, ça dépend évidemment si vous comptez.
C'est vrai que la cantine, ça coûte cher dans le privé. Julien Grenet, vous êtes assez effondré par les propos d'Olivier Babeau. Vous pensez que la ségrégation sociale, c'est une rupture du pacte républicain? Ça vous inquiète en réalité?
Oui, ça m'inquiète pour à la fois des questions de cohésion sociale, c'est-à-dire si on sépare les enfants dès le plus jeune âge, sans jamais qu'ils se croisent dans une société, eh bien ça va être difficile de construire justement une société qui a une certaine cohésion. Et puis, je pense qu'il faut revenir sur l'idée selon laquelle le privé est pédagogiquement supérieur à l'enseignement public. Parce qu'on omet souvent de dire qu'à composition sociale égale, il n'y a pas de différence publique-privée dans les performances scolaires des élèves.
Sauf que vous voyez bien que la composition d'une classe, ça y fait beaucoup la quantité de savoir qu'un enseignant peut transmettre à ses élèves.
Le souci, c'est que si la technologie du privé se résume à du tri social et scolaire, on ne voit pas très bien collectivement ce qu'on a en tiré. Le public pourrait le faire. Donc, et l'autre sujet, c'est que les difficultés du public ne sont pas complètement indépendantes de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'à mesure que les catégories sociales favorisées quittent le public, en fait, ça concentre les difficultés sociales et scolaires au sein des établissements publics, accélérant la fuite de ceux qui y restent.
Vous voulez conclure, Olivier Babot ?
Et le problème, c'est qu'on a vu que même les gens qui sont de gauche et très progressistes finissent par mettre leurs enfants dans le privé. Pourquoi ? Parce que à la fin, vous pouvez avoir toute la volonté de partage d'altruisme du monde. Votre enfant, c'est plus que vous-même. Vous voulez son intérêt. Et vous savez, c'est terrible, parce que c'est vrai que ce mécanisme fait qu'à la fin, vous avez l'école où restent ceux qui n'ont pas pu pas pu partir, en fait. Ceux qui sont restés sur le paquebot.
Là-dessus,
et
vous êtes d'accord.
C'est un vrai problème.
Donc, c'est à l'État de jouer son rôle.
Mais vous n'avez pas empêché les parents de tout donner, y compris de vivre dans plus petit, de s'endetter pour leurs enfants. Donc, il faut trouver un autre système, et ce système, c'est pour moi l'exigence qui revient dans le public. Pardon.
Olivier Babot, je vous remercie. Merci. Et je vous propose aussi, je propose à nos auditeurs de vous suivre sur X, Twitter, parce que vous avez des tweets enflammés pour défendre l'école privée.
Oui, sur d'autres sujets aussi.
Sur d'autres sujets aussi, mais celui-ci vous tient particulièrement à cœur. Julien Grenet, je vous remercie et je renvoie les auditeurs à cette note publiée par l'Institut des politiques publiques. Vous êtes sur France Inter, on écoute Makalala parce que c'est le choix de la grande matinale, c'est le choix musical. Ce sont des souvenirs d'enfance puisés dans un quartier populaire de Genève. Et c'est l'extrait en playlist sur France Inter de ce nouvel album. Elle sera en concert cet automne, le 27 novembre, au Zénith de Paris. Il est 9h46. Il est 9h46. Merci à vous d'écouter France Inter. Charline Vanhoenacker, donc. Lundi, les eurodéputés ont validé le durcissement des règles d'expulsion des migrants vers des plateformes de retour.
Oui, ce que les eurodéputés appellent des plateformes de retour, c'est un centre de rétention. Ou c'est ce qu'on appelle aussi dans le langage des rapatriés de Dubaï, le Novotel de Roissy. Alors le texte est très radical et il a pu être validé parce que la droite européenne s'est alliée au groupe d'extrême droite. Heureusement, il doit encore être voté en séance plénière, ce qui laisse le temps aux avions qui ramènent les influenceurs d'atterrir pour repartir avec des migrants. Alors moi, il y a vraiment les deux actus se sont croisés sous mes yeux, comme ça, t'es le deux traînées blanches dans le ciel. François-Xavier Bellamy se réjouit de l'adoption de ce texte. Imagine un petit peu, t'as traversé le désert, la Libye, puis la Méditerranée, et ton destin tient entre les mains de François-Xavier Bellamy. Le charme sur sa charne. Ça doit leur faire des grosses journées aux eurodéputés. Le matin, il faut tout faire pour faire rentrer les expatriés du Moyen-Orient et l'après-midi, il faut tout faire pour ne pas faire rentrer les immigrés du Moyen-Orient. Dans les deux cas, c'est un sacrifice. Pour fuir la guerre, les migrants sont prêts à quitter la maison, la famille, les amis. Et de l'autre côté, pour fuir la guerre, les expatriés dans les Émirats sont prêts à payer des impôts dans leur pays d'origine. Parce que 60% des demandes de rapatriement concernent les Émirats arabes unis. Alors au Quai d'Orsay, l'opération a été baptisée « Fil d'Ariane ». En rapport avec la mythologie, hein, on ne va pas les récupérer en fusée. Non mais je précise parce qu'il pourrait y avoir des déceptions. Alors, je suis soulagée que les expatriés, d'où qu'ils viennent, soient mis à l'abri, bien sûr. Mais alors, au même moment, quand un migrant débarque, maintenant, on le renvoie directement dans son pays. Alors qu'avant, on lui laissait quand même le temps de boire un verre d'eau avant de le remettre dans le charter. Il risque 24 mois de détention. Une interdiction d'entrée en Europe pendant 10 ans. Et on n'est pas en train d'importer un petit peu un nouveau produit américain, l'ICE. Les Pays-Bas, ils font déjà des démarches pour ouvrir un centre de rétention en Ouganda. Alors ça va, t'es arrivé sain et sauf à Rotterdam? Ben écoute, ouais, mais c'est pas du tout comme j'imaginais. Figure-toi qu'il fait 40 degrés, il y a des rhinocéros.
Sans blague.
Alors peut-être que si les migrants proposaient des codes promo pour défaire Alice et Babilis. Oui, mais ça faciliterait l'accueil, pardon. Alors vous allez me dire, le sort des migrants n'a aucun rapport avec le sort des influenceurs. Eh ben peut-être bien, mais normalement, la droite n'a aucun rapport avec l'extrême droite non plus. Avant, les partis d'extrême droite voulaient tous sortir de l'Europe, mais ils ont revu leurs priorités, leur objectif, c'est que plus personne ne puisse y rentrer. Et je comprends vraiment pas pourquoi ils s'embêtent à vouloir gagner des élections, ils obtiennent déjà tout ce qu'ils veulent en étant minoritaires. Les migrants, enfin, déjà, ils avaient pas de maison, pas de travail, pas de famille, et vous voudriez pas qu'on leur file des droits en plus.
Bah, Charline Vanhoenacker.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Et il est 9h49, nous sommes en direct dans le studio de la matinale de France Inter et ma nouvelle tête s'appelle Roxane Stojanov. C'est une grande artiste. Et d'ailleurs, je vais lui demander tout de suite ce qu'elle fait dans la vie. Quel est votre métier, Roxane ?
Bonjour. Je suis danseuse étoile.
Et voilà, ça fait toujours de l'effet, je trouve.
Ça fait de l'effet.
Il n'y a rien à faire. Ça s'est passé le 28 décembre 2024, il y a un peu plus d'un an, et c'était vraiment pas un soir comme les autres à l'Opéra Bastille. Ce soir-là, l'annonce s'est faite à l'issue de la représentation du ballet Paquita de Pierre Lacotte, dans lequel vous interprétiez le rôle-titre. Mais la première avait été annulée à la dernière minute après un arrêt de travail des danseurs, alors que les spectateurs étaient déjà dans la salle. Mais le 28 décembre, le ballet, l'un des plus difficiles vraiment du répertoire classique, est joué une seule et unique fois pour vous. Dans la salle, le directeur de l'Opéra de Paris et le directeur de la danse s'avancent. En général, quand ils arrivent sur scène, c'est pas pour vous faire la bise. Non, c'est le moment de la reconnaissance ultime.
J'ai maintenant l'immense honneur et le plaisir de nommer Madame Roxane Stojanov pour ce jour.
Il se trouve que ce soir-là, en plus, Sonia et Charline, il y avait votre mère dans la salle. C'était... Comment c'était ?
Ah ben, on aurait voulu le faire, que ce soit tout organisé, on n'aurait pas mieux fait. Hein. C'est... Et j'adore les surprises. Alors,
Elle était en larmes ?
Oui, je pense. Ouais. Oui. Je l'ai retrouvée sur le plateau après, quand elle est arrivée. À la fin, quand le rideau s'est fermé, elle tremblait peut-être autant que moi. Quoi, mais c'est génial qu'elle ait vécu ça.
Comment ça se passe la première année d'une danseuse étoile ?
Ah ben, ça a suivi son cours parce que y a quand même la programmation était déjà faite. J'avais pas mal de rôles qui s'annonçaient intéressants, mais il y a quelque chose où, du coup là, j'y allais avec une certaine liberté. En tout cas, j'étais beaucoup plus sûre de moi et prête à affronter les responsabilités parce que je me sentais les mériter et c'était vraiment kiffant.
Malgré vos chaussons roses de danse classique, vous êtes reconnue dans le métier, et pas que dans le métier, dans le public, pour avoir une énergie presque punk, assez ébouriffante. On dit qu'il y a chez vous quelque chose dans le regard d'indomptable, d'hyper déterminé, de libre, de très puissant quand vous êtes sur scène. Vous serez bientôt dans... dans Roméo et Juliette de Nureyev, à partir du 2 avril à l'Opéra Bastille, puis La Dame aux Camélias à partir du 5 mai. Vous enchaînez les rôles classiques et dramatiques, mais elle est comment votre Juliette ? Elle va être comment cette Juliette ?
Ah ben, j'ai envie de la jouer un petit peu, utiliser peut-être ce côté fort et sensible à la fois. D'abord, elle va être un peu rebelle. Voilà, je pense qu'elle a envie d'affronter un peu ses parents. Et puis elle va découvrir l'amour, elle va découvrir le drame, la mort, ça va la changer, tout ça en très peu de jours finalement dans l'histoire. Donc c'est un personnage avec des facettes vraiment très opposées. Et voilà, en très peu de temps, il faut passer de cette jeune fille rebelle à une femme qui a presque en 3 jours vécu une vie entière et qui devient femme.
Et vous, ouais. Votre vie, avant de devenir femme, on va la raconter un peu, parce que vous êtes née en France, à Auch, d'un père macédonien et d'une mère française. Vous avez commencé la danse à l'âge de 8 ans, et puis évidemment, vous êtes rentrée à l'opéra à l'âge de 12 ans. Vous dites que vous n'avez jamais eu une vision idéalisée, d'ailleurs, de ce métier de danseuse. C'est quoi pour vous le métier de danseuse aujourd'hui ?
Ah, moi, je pense qu'il faut être... on est des athlètes, déjà c'est une chose, mais il ne faut pas oublier le côté artiste. Et donc on est à la fois voilà, des comédiens aussi sur scène. Ça c'est ce qui compte énormément pour moi quand je suis en scène. Et le côté athlétique et tout le travail se fait avant, en amont dans les répétitions. Et c'est une part tout aussi agréable parce que c'est voilà, plein de challenges et j'aime relever ça. C'est ce qui m'a plu, la rigueur dans ce métier.
Vous étiez l'un des visages de la série documentaire d'Arte Graines d'Étoiles, pour ceux qui l'ont vu, qui était réalisée par Françoise Marie. Et elle suivait les écoles de danse de l'Opéra de Paris pendant 5 années. On vous a vu évoluer, on vous a vu tenir bon et puis craquer quand même quelques fois. Il y avait les larmes dans la voix lorsque vous avez évoqué votre envie d'y arriver, malgré le sentiment d'échec, après votre redoublement en écoute.
À la limite, que je ne sois pas prise, ce n'est pas vraiment ce qui me... Enfin, si aussi, mais c'est surtout de voir... que j'ai été toujours dans les meilleurs tout au long de mon parcours à l'école et que en première division, je suis capable de pas convaincre tout le monde, quoi. Surtout, je sais que je vais rien lâcher l'année prochaine. Et même si je réussis pas pour l'opéra, je pense que je pourrais aller ailleurs.
Et la voilà. Vous êtes danseuse étoile aujourd'hui.
Ah oui.
Ça vous émeut encore de vous entendre comme ça?
Oui, c'est très très touchant.
Oui, parce que je me remets dans l'état, je sais quel état j'avais à ce moment-là. Et on ne sait jamais en fait de quoi est fait l'avenir, mais ce qui compte et ce que je remarque, c'est que chaque échec, finalement, c'est plutôt une opportunité de retourner ça en positif. Alors c'est facile à dire sur le moment, mais il faut digérer et après on y retourne. Et ouais, c'est...
Et c'est une belle histoire, ouais. Parce qu'aujourd'hui vous allez jouer Juliette dans Roméo et Juliette à Bastille, donc je le disais, à partir du 2 avril, et il se trouve que son crush d'adolescence, Sonia, Charline, c'était Roméo. La boucle est bouclée ?
Non. Non, c'est juste qu'en ce moment, tous les jours, je suis Juliette, alors je me mets dans la peau de Juliette et je vois Roméo tous les jours. Alors là,
Et on entend à bas, évidemment, parce que c'est le son qui vous fait,
oui,
toujours vibrer, il n'y a rien à faire.
Ouais, c'est la joie, c'est plein de chouettes moments d'enfance, j'adore.
Parce que ce rêve de danseuse, quand même, il s'est réalisé depuis près de 20 ans, mais vous racontez que vous faites encore un cauchemar récurrent. Et ce cauchemar, c'est lequel ?
Ben, ça va. C'est pas toujours dans le même contexte, mais c'est toujours le même problème. Je dois remplacer un rôle. J'ai une opportunité, quelque chose de vraiment que je voulais, et rien n'avance comme je veux. Tout va au ralenti. On n'arrive pas à me coiffer. Je trouve pas le costume. Ça s'agrafe pas. La choré, je l'ai oubliée. Je regarde une vidéo pour me rappeler. La vidéo ne marche pas. Et j'arrive sur scène et je me réveille. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est terrible.
Nous aussi, on a des cauchemars de radio.
J'imagine.
Tout le monde a ces cauchemars-là. Mais c'est vrai que dans le ballet, il y a toujours cette confrontation entre cette technique hyper technique et puis l'interprétation. Alors, je vous ai demandé, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile pour vous à maîtriser, un pas que vous trouvez particulièrement exigeant, en tout cas une prouesse technique, ce serait laquelle, si vous deviez nous l'expliquer ce matin?
Ouais,
et on entend le son qui accompagne déjà.
Rien que le son, il stresse. Donc en fait, ce sont les... Pour moi, un point technique hyper important pour une danseuse, c'est les fameux 32 fouettés. C'est ce qu'on trouve dans une coda à la fin des grands ballets classiques, à la fin du grand pas de deux. C'est hyper virtuose, un moment technique qui consiste à donc tourner 32 fois sur une même jambe, avec à chaque fois on replie, on remonte sur pointe, pendant que l'autre jambe fouette clairement la chantilly. Mais donc il s'agit de rester en rythme, de ne pas perdre son équilibre, de garder son focus dans le noir de la salle au fond et pas avoir le tournis. Et il faut faire ça 32 fois. Si on termine avant, bah, ça se voit. Ça veut dire qu'on a eu un problème technique. Et là, on est livré à nous-mêmes. Et pour moi, c'était un point un peu noir parce que techniquement, ça allait. C'était dans la tête, le problème.
Et voilà, pendant des années, vous n'y arriviez pas.
Et puis tout d'un coup, j'ai travaillé et j'ai eu Kitri à faire le rôle principal dans Don Quichotte, où à la fin des trois actes, on doit faire ces fameux 32 fouettés et le lâcher prise m'a permis d'arriver au bout de ces 32 fouettés. Et à partir de là, j'ai pris vraiment confiance et j'ai su que j'étais capable.
32 fouettés, lui, je ne sais pas s'il y arrive. On va faire un point Timothée Chalamet. Il y a quelques jours, dans un podcast, il expliquait qu'il ne se verrait pas travailler dans l'opéra ou le ballet parce que ce serait des arts qu'on essaie de maintenir en vie, alors que selon lui, plus personne ne s'y intéresse vraiment. On l'écoute dire cette bêtise, enfin.
And I don't want to be working in ballet or opera or, you know, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore.
La réaction, elle, a été mondiale. Des danseurs, des chanteurs, des élèves, des conservatoires, des compagnies entières ont répondu. Vous qui êtes danseuse à l'Opéra de Paris, qu'est-ce qu'on a envie de lui répondre à Timothée ?
Qu'on est plus fort. Hein. Parce que moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir la réunion de toutes les institutions, tous les danseurs, toutes les. On est hyper fiers de ce qu'on fait, nous. Donc. Ça nous a fait de la pub.
Et il se trouve qu'en ce moment même, on fait du ping-pong tout sur scène à l'Opéra. Donc
et
c'est
l'Opéra
quand même
de Paris
marrant.
A très bien réagi.
Une dédicace au micro de France Inter avant de se quitter ce matin.
J'aimerais faire une dédicace à tous les participants de mon concours de danse que j'ai créé en Macédoine qui aura lieu le 18 avril prochain. Première édition, le prix Roxane Stoyanov. Qui permettra aux lauréats de venir passer une semaine à Paris et d'avoir accès à la culture et à des spectacles à Paris.
Merci beaucoup. Et donc, dans Roméo et Juliette, chorégraphié par Rudolf Nureyev à Bastille à partir du 2 avril. Merci beaucoup, Roxane.
Merci Roxane. 32 fouettés, j'oublierai jamais. C'est la fin de la grande matinale. Ali Rebeilly, vous êtes avec nous.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, comment accompagner les élèves turbulents, ces enfants qui dérangent à l'école, agitation, opposition, difficultés d'apprentissage, isolement. Que racontent ces conduites inadaptées et comment les accompagner? Donc, vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000.
À tout à l'heure.